Alors, je vous invite à tourner dans Genèse 15, versets 1 à 21. Genèse 15, 1 à 21. Et si parfois on a l'impression que les récits de l'Ancien Testament concernent davantage Israël ou, enfin, l'Ancienne Alliance, je vous rappellerai que l'apôtre Paul dit qu'Abraham, c'est notre père dans la foi. Donc, nous devons tirer les enseignements aussi de l'Ancien Testament pour comprendre davantage notre salut. Genèse 15, versets 1 à 21. « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance. » Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je le posséderai? » Il lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. » Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. » Car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Canmonéens, des Hittites, des Phérisiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. » On va séparer cette portion de l'Écriture en 4 sections. D'abord, les versets 1 à 7, c'est Dieu qui renouvelle l'alliance faite à Abraham. Vous remarquerez qu'il est nommé ici Abraham, mais son nom sera changé pour Abraham, mais c'est le même personnage. La deuxième section, les versets 8 à 12, Dieu demande à Abraham de poser un geste pour sceller l'alliance. La troisième section, les versets 13 à 16, annonce l'épisode où le peuple de Dieu fut conduit en Égypte et les conditions d'esclavage qu'il y avait dans ce pays. Et dans la quatrième partie, versets 17 à 21, on va voir qu'il se passe des choses étranges avec les animaux. Alors, pour nous situer, et le texte demande de nous situer, il dit « après ces événements ». Alors, quels sont ces événements? Bien, à la fin du chapitre 12, il y a le séjour en Égypte à cause de la famine en Canaan. Et rappelons-nous qu'Abraham avait mal agi en faisant passer sa femme pour sa sœur. Abraham avait menti. Dieu lui avait promis un fils qui passerait par Sarah. Et quand Abraham dit « j'ai peur qu'il te tue », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je ne suis pas certain que ce que Dieu a promis va se réaliser. C'est impossible que sa femme soit tuée. Dieu a promis qu'elle aurait un fils. Elle ne pouvait pas être tuée. Un missionnaire a déjà dit, alors qu'il était menacé de tous côtés, il avait dit à sa femme, « Chérie, nous sommes immortels tant que Dieu n'en a pas fini avec nous sur cette terre. » Et Sarah n'avait certainement pas fini. Dieu avait promis qu'elle aurait un fils. Mais Abraham ment. Au chapitre 13, c'est là qu'Abraham et Lot se sont séparés. Et au chapitre 14, on voit quelques victoires du camp d'Abraham sur certains rois telets, suivies de la rencontre entre Abraham et Melchisédek. Et donc, après ces événements, Dieu s'adresse à Abraham dans une vision et lui dit: Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que Dieu dit ça à Abraham? Lui qui vient d'exposer sa femme à l'adultère, il prend sa femme parce qu'il en fait de la promesse de renaître et il la place dans une situation qui menaçait les plans de Dieu, qui allait contre ce que Dieu avait dit. Et mon impression, c'est que quand Dieu dit « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier », je pense que Dieu est en train de dire à Abraham « Je vais te protéger et pas juste des ennemis autour de toi, mais je vais te protéger de toi-même. Je suis ton bouclier, je te protège. Sois sans crainte. Je ne te laisserai pas à tes propres gaffes, à tes propres égarements. Je t'ai choisi, je te protège. Je suis ton bouclier contre tout ce qui peut te menacer, y compris tes propres choix. Ce n'est pas un encouragement à se laisser aller à n'importe quoi, disant, Dieu est mon bouclier, il me ramènera. Mais plutôt, un encouragement à persévérer lorsque nous dévions. À persévérer dans les voies du Seigneur et de savoir que ce n'est pas fini, que notre marche ne s'arrête pas lorsqu'on trébuche. Le Seigneur relève son serviteur et on continue sur le sentier vers le patrie céleste. Dieu nous dit, sois sans crainte, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. C'est un Dieu qui prend tous les moyens, et il les a, pour canaliser et changer ce qu'on fait et qui pourrait nuire à son alliance. Abraham a vu Dieu intervenir. Quand il y a le fameux litige entre Abraham et Lot, pour éviter les querelles entre les deux clans, ils ont dû se séparer. Ça devenait trop gros comme clan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham n'a jamais dit à Lot, c'est moi qui vais choisir en premier parce que Dieu m'a promis un pays, donc c'est je dois prendre ce pays-là. Non, Abraham a laissé Lot choisir en premier. Dieu est souverain. Il a laissé Lot choisir en premier. Et Lot a choisi non pas le pays de la promesse, mais l'autre côté. Abraham a vu Dieu agir. Abraham a vu qu'il ne devait pas craindre. Hein? Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Abraham venait aussi de faire la guerre à ses ennemis et il y avait un danger de réplique de la part de ses ennemis. Et à cette époque-là, quand un clan perdait une guerre, il n'arrêtait pas ça. Là, il faisait alliance avec d'autres clans autour, puis il dit, on se met plus nombreux, on va attaquer. Dieu lui dit, sois sans crainte, Abraham, je suis ton bouclier. La crainte d'Abraham venait certainement du fait aussi qu'il n'avait pas d'enfant. À cette époque-là, quand une personne devenait trop âgée, ce n'était pas le bon gouvernement qui prenait soin des personnes âgées, c'était les enfants. Abraham n'avait pas d'enfant. Il était sans doute craintif, qu'est-ce qui va se passer? Qui va prendre soin de nous quand on sera trop âgé? Dieu dit, sois sans crainte, Abraham. Je suis ton bouclier. Donc Dieu rassure Abraham de sa protection complète, de tout ce qui pourrait entraver son plan. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants et Dieu est le bouclier, un bouclier parfait. Il n'y a pas de, vous connaissez l'expression, c'est le talon d'Achille. Il n'y a pas de faille dans l'armure de Dieu. Il est notre bouclier. Chaque enfant de Dieu peut dire, le Dieu qui m'a créé, qui m'a appelé, qui m'a sauvé, il me garantit qu'il me protégera d'absolument tout. Je peux être sans crainte, car Dieu est mon bouclier. Et Dieu va beaucoup plus loin. Il lui dit, ta récompense sera grande. Et l'idée de récompense se rapporte à l'héritage de Dieu que ses enfants recevront après avoir vécu pour Dieu. Mais ne nous trompons pas, c'est Dieu qui nous rend capables de vivre pour lui. Si nous persévérons, c'est parce que Dieu nous donne de persévérer. Il n'y a donc pas de place pour penser mériter les récompenses. D'ailleurs, on le voit dans l'Apocalypse quand les 24 vieillards déposent leur couronne. J'en ai déjà parlé, il y en a qui n'étaient pas ici. Il y a deux mots grecs pour couronne. Il y a diadémé, qui est une couronne royale, et il y a Stéphanos, qui a donné le prénom Stéphanie, et qui est une couronne suite à un acte accompli. On remettait cette couronne-là soit à des militaires qui avaient commis un acte de bravoure ou à des compétiteurs olympiques. Et dans l'Apocalypse, les 24 vieillards prennent leur couronne de récompense, leur stéphanoï, et déposent ça au pied de l'agneau et disent, tu es digne de recevoir. Par contraste, par opposition à nous, finalement, on dépose ça à tes pieds parce que c'est toi qui es digne de recevoir l'honneur. C'est une autre façon de dire, ce qu'on a fait, c'est pas par nous-mêmes. C'est par toi et c'est toi qui es digne de recevoir tous les honneurs. Il n'y a pas de place pour penser mériter même les récompenses que Dieu promet. Et le sacrifice de Christ fait que l'ensemble du salut nous est donné, incluant la sanctification, incluant le vouloir et le faire, incluant la persévérance. Versets 2 et 3, ça nous montre la pensée de cette époque. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et quand quelqu'un n'avait pas d'enfant, tout s'écroulait. La vie de quelqu'un se prolongeait dans ses enfants. Quand quelqu'un a une compagnie, la plupart du temps, il espère que ses enfants vont prendre la relève. Et notre génération a réellement perdu le sens de la famille. Nous avons perdu le sens de la famille. La famille, c'est la première institution divine. Et on sent chez Abraham un souci constant d'avoir un fils. Il veut un fils. Il y avait des raisons théologiques. Dieu avait promis une descendance victorieuse dans Genèse 3,15. Et depuis ce temps-là, il y avait cette espérance de donner naissance au Messie. Dieu promet à Abraham qu'il aura un fils, versets 4 et 5, un vrai fils, et ce fils débouchera sur une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Le texte nous montre que Dieu dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter, ça insinue qu'il ne peut pas. Premièrement, c'est très difficile parce qu'on se demande, est-ce que je l'ai compté ou pas? Hein? C'est impossible. Puis plus on regarde, on en voit qui sont lointains, qu'on n'a pas vu encore. Donc, Abraham, ça c'est comme une descendance. On peut en voir, en certains, mais il y a des générations qu'on ne voit pas encore. Mais c'est une façon de dire, oublie ça. Tu ne peux pas compter le nombre de descendants que tu auras. Tu veux un fils? Mais ta descendance sera innombrable. Jésus a dit dans Jean 8, Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. On se demande quand Abraham a vu le jour du Christ. Bon, il n'est pas mort jeune, Abraham, mais quand même. Il est fort probable qu'Abraham a vu le jour du Christ lorsque son fils est né. Et c'est fréquent dans l'Écriture. Quand on voit l'ombre, quand on voit les prémices d'un accomplissement, par la foi, on voit le tout. Nous avons reçu les prémices du Saint-Esprit, mais par la foi, nous sommes déjà ressuscités avec Christ. Hein? C'est comme si on part d'un échantillon à l'ensemble. Certainement qu'Abraham a vu aussi le jour du Christ quand il a voulu offrir son fils Isaac, que Dieu est intervenu et qu'il a pourvu pour un sacrifice. Après le roi David, la notion de descendance a pris encore un sens plus important parce que là, c'était pas, ça ne pointait pas d'abord vers une descendance innombrable, mais vers un individu. Ce sera un de tes descendants qui me construira une maison. Et c'est le fils de David, c'est le Christ. Abraham a certainement vu le jour de Christ en voyant la fidélité de Dieu. Puisque Dieu est fidèle dans ma vie, il sera fidèle. C'est un Dieu fidèle, donc, qui se révèle à moi. Il va réaliser ses promesses. Verset 6, un verset tellement important. Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. Dès la Genèse, nous voyons que c'est la foi qui justifie. On doit rejeter tout courant théologique qui dit que sous l'Ancienne Alliance, les gens étaient sauvés par l'obéissance à la loi. C'est impossible, l'apôtre Paul le mentionne. S'il y avait eu une loi par laquelle l'homme aurait pu arriver à une justice, eh bien, Dieu n'aurait pas envoyé son fils. Mais une telle loi n'existe justement à cause du péché de l'être humain. Et c'est toujours par la foi que l'homme peut être sauvé. Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice, verset qui est répété dans Romains pour dire que c'est encore pareil pour nous. Ça n'a jamais changé. Être justifié, c'est être en règle avec la loi, avec ses exigences, non pas parce que nous rencontrons les exigences, mais parce que le Christ rencontre les exigences pour nous. Et c'est sa justice qui nous est imputée. Si j'ai une dette, une amende que je n'ai pas payée, je ne suis pas en règle avec la loi, mais si quelqu'un paie cette dette-là, je n'ai rien fait et pourtant, je suis en règle avec la loi, même si je n'ai jamais rencontré l'exigence de la loi. Quelqu'un l'a fait pour moi. C'est la justice imputée, mise à notre compte. Encore là, il n'y a toujours eu qu'une seule voie de justification. C'est par la foi. Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Deuxième partie, versets 7 à 11, Abraham pose un geste. À l'époque des patriarches, quand on voulait sceller une alliance, un contrat, une des façons était de procéder, comme on voit dans les versets 9 et 10. On prenait des animaux que l'on coupait en deux. Chance que Brigitte Bardot ne vivait pas à cette époque-là. Et on faisait deux rangées avec les moitiés d'animaux. Et le verset 11 parle d'oiseaux qui ont voulu s'abattre sur les morceaux d'animaux découpés. Et il y avait une grande signification à ce geste-là, que nous développerons à la quatrième partie. En attendant, versets 12 à 16, Dieu annonce l'épisode en Égypte. On peut se demander qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi Dieu annonce à ce moment-là l'épisode en Égypte et la délivrance en plein milieu d'un rituel comme ça? On se rappelle que le séjour en Égypte a débuté avec Joseph, qui a été vendu par ses frères, qui s'est retrouvé en Égypte, et que Dieu a béni, et finalement, Pharaon a établi Joseph comme premier ministre. Il y a eu une grande famine dans le Proche-Orient, sauf que Dieu avait dirigé Joseph pour qu'il fasse des réserves. Hein, il y a eu 7 années de vaches grasses, 7 années de vaches maigres. Pendant les 7 années de vaches grasses, ils ont accumulé dans des greniers. Et là, c'est la famine au Proche-Orient, mais l'Égypte avait de grandes réserves de blé. Et c'est ça qui fait que la famille de Joseph est allée demander de la nourriture en Égypte, et finalement, la famille s'est retrouvée là. Sauf que ce fut bref comme agrément, parce que rapidement, la nation juive est tombée dans l'esclavage. Et le peuple a crié à Dieu qui les délivra sous Moïse. Et que visait toute cette période-là que Dieu annonce à Abraham? Tes descendants vont séjourner dans un pays et ils seront esclaves. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela, qui a permis cela? Mais je vous lis Deutéronome 8. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui et non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Toute cette période-là, Dieu amène son peuple en esclavage qui doit crier, et le peuple doit crier à Dieu. Dieu les délivre, mais 40 ans dans le désert, toute cette période-là visait à humilier le peuple juif et de faire ressortir ce que l'homme a dans le cœur. Non pas que les Juifs avaient un cœur différent, Dieu se révèle à travers la nation juive. Nous aurions tous fait la même chose si nous avions été là. Mais le but de Dieu est un but pédagogique. Afin que tu reconnaisses que Dieu t'éduque, comme un homme éduque son fils. C'est toujours une bénédiction que lorsque Dieu nous montre notre péché, notre petitesse, lorsque Dieu nous humilie. Psaume 119, je pense que c'est verset 61, je ne suis pas certain. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes prescriptions. Donc, ce que Dieu annonce à Abraham, c'est qu'avant d'entrer dans les promesses, il y a un passage humiliant à traverser, un passage pédagogique à traverser. Et on sait que tous ceux qui sont sortis d'Égypte ont échoué le test, puisqu'ils sont tous morts au désert. Donc, ils ont eu le temps de se reproduire au désert et de donner naissance à une nouvelle génération. Tout le monde, sauf Josué et Caleb. Et on peut se rappeler les nombreux murmures du peuple, le veau d'or, etc. Donc, le Seigneur montre à Abraham, annonce à Abraham ce séjour pénible. Et partie 4, versets 17 à 21, c'est le dénouement. On définit l'alliance comme, d'abord, comme étant, l'alliance que Dieu établit comme étant d'abord l'initiative de Dieu. Et on définit aussi comme étant caractérisé par un lien de sang, S-A-N-G. Et dans chaque alliance, il est question du sang ou de la mort. Vous ne mangerez pas de tel arbre, sinon vous mourrez. Ici, on voit avec les animaux qu'il y a le sang. Avec Noé, si quelqu'un tue l'homme, eh bien, par l'homme, son sang sera versé. Le sang, donc, la nouvelle alliance est scellée aussi par le sang du Christ. Quand on parle d'alliance, il y a un lien de sang. C'est Dieu qui établit les rapports avec son peuple et il y a toujours un lien de sang. Il y a un prix. Le sang doit être versé, doit couler lorsqu'il y a transgression. Et puisque l'homme transgresse, l'homme est un transgresseur d'alliance, eh bien, il y a toujours du sang qui est coulé. Sang d'animaux, sang humain, nouvelle alliance, le sang du Christ. Donc, à cette époque, comme j'ai mentionné, on séparait des animaux en deux et on faisait un corridor. Et les deux parties devaient passer au centre, s'engageant à respecter l'alliance, sinon on est prêt à subir ce que les animaux viennent de subir. C'était le sens qui était donné. Jérémie 34, versets 18 à 20, dit ceci. Je livrerai les hommes qui ont enfreint mon alliance, qui n'ont pas accompli les conditions de l'alliance qu'ils avaient conclue devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Les ministres de Juda et les ministres de Jérusalem, les officiers de la cour, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui sont passés entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. On retrouve ici le même rituel, et aussi les oiseaux, les bêtes sauvages qui viennent manger les cadavres. Dans Jérémie, Dieu dit que les cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Pourquoi? Quel sens est-ce que ça prend? Mais quand un cadavre est laissé aux oiseaux, aux bêtes sauvages, c'est qu'on ne reconnaît aucune dignité à la personne. J'avais clairement dit qu'on devait ensevelir les morts. Hein? Une digne sépulture. Laisser les cadavres aux oiseaux, c'est ne reconnaître aucune dignité. C'est laisser la mort aller. C'est la démonstration d'un jugement clair et net. C'est abandonner le corps à la décomposition la plus rapide qui se peut. Et dans notre texte avec Abraham, tout ce qui passe entre les morceaux, c'est une fournaise fumante et une flamme, verset 17. Abraham n'est jamais passé. Et pourtant, Dieu dit, j'établis mon alliance avec toi. Pourquoi? Bien, d'abord, il faut savoir que la fournaise fumante représente Dieu. Dieu se présente souvent sous forme de feu, qu'on pense au buisson ardent. L'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu est un feu dévorant. Et donc, il n'y a que Dieu qui passe entre les animaux. Signifiant ainsi qu'il assume entièrement la pleine responsabilité de l'alliance. Et que la promesse sera réalisée et qu'il accepte de prendre sur lui la malédiction. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas demandé à Abraham de passer entre les animaux? Si Dieu avait fait cela, Abraham et toute sa descendance auraient subi, à juste titre, la malédiction. Donc, il n'y aurait pas de salut. Dieu est en train de dire ici, je m'engage parce que je veux vous sauver. Toi, tu ne passeras pas entre les morceaux parce que vous allez échapper au jugement. C'est moi qui vais subir la malédiction, ce que le Christ a fait. Et que les oiseaux aient été chassés nous indique que Dieu n'a pas abandonné Jésus-Christ dans la mort, dans le séjour des morts. Actes 2, 25 et 27, car David a dit de Jésus, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. La fournaise passe entre les animaux, donc c'est Dieu qui dit, je vais prendre la malédiction, mais les oiseaux n'ont pas d'affaire là. Et le Christ a subi la malédiction, mais Dieu ne l'a pas laissé dans la corruption. L'alliance est donc caractérisée par le fait que Dieu assume la partie de l'homme dans les exigences qu'il devait remplir. C'est un Dieu qui fait grâce. C'est la grâce. Si on regarde, qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour que Dieu lui fasse grâce? Est-ce qu'il avait été fidèle, Abraham? Pas trop. Pas trop. Il expose sa femme à l'adultère. C'est possible. Et par un mensonge, hein, il n'y a rien de glorieux. Mais ça montre que quand Dieu sauve une personne, ce n'est pas sur la base de ses œuvres. Ce n'est pas parce que la personne mérite. Dieu nous fait grâce. Et quand on parle de l'alliance de rédemption, on peut l'appeler aussi l'alliance de grâce. Il y en a qui l'appellent l'alliance de grâce. Et l'application que l'on doit tirer, c'est l'application que la Bible fait. Si nous avons reçu la grâce, nous devons appliquer la grâce aussi. Celui qui n'applique pas la grâce, je pense, devrait s'interroger s'il a compris la grâce. Non pas une grâce déresponsabilisante, puis une grâce permissive, mais Dieu fait grâce, mais en même temps, il nous instruit, il nous corrige. Ça, c'est la vraie grâce. Dieu ne nous laisse pas dans notre égarement. Et comme parents, on doit appliquer la grâce, et c'est par grâce qu'on les instruit. Hein? La grâce, c'est pas de laisser tout faire et de permettre tout. La grâce, c'est une grâce qui responsabilise, une grâce qui est pédagogique, en vue que la personne grandisse. Et en vue de ne pas laisser la personne dans sa propre ignorance, dans son égarement. Paul dit aux Éphésiens, « Soyez bons les uns vers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ. » Comment est-ce que Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ? Pour comprendre ça, pour être capable de l'appliquer après. Je reviens avec ce que je vous ai déjà dit. La théologie, ce n'est pas une perte de temps. De réfléchir sur comment Dieu applique sa grâce vis-à-vis de nous. Est-ce que c'est une grâce méritée ou pas? Si c'est mérité, ce n'est plus une grâce. Est-ce que c'est moi qui me suis tourné, parce que j'ai un bon cœur, qui me suis tourné vers Dieu, ou si c'est Dieu qui a incliné mon cœur? Ça fait toute partie de la compréhension de la grâce. Et ce n'est que lorsque je comprends la grâce, on parle, chez les réformés, on parle souvent des doctrines de la grâce. Ce n'est que dans la compréhension de ces doctrines-là qu'on peut appliquer la grâce. Remarquez que si on croit, si on est légaliste, si on croit que Dieu nous accueille sur la base de notre obéissance, on va faire la même chose vis-à-vis les autres. Et je vous invite à conseiller, si c'est une tendance que l'on a d'accueillir l'autre sur la base de nos petits critères et il doit rencontrer mes exigences à moi, c'est parce qu'on n'a pas compris quelque chose de la grâce pour revenir à l'Évangile. Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Il semble que ça insinue que le Christ avait raison de se plaindre de nous. Et il aurait raison de se plaindre de nous. Nous sommes vacillants. Ce n'est pas vrai que nous sommes fidèles. Nous sommes vacillants. Et comme le Christ aurait raison de se plaindre de nous, mais qu'il nous fait grâce, il dit, vous aussi faites de même. Ça veut dire qu'on doit être prêt à payer pour notre frère, pour notre sang. À subir le coup à sa place. C'est un appel à se sacrifier pour l'autre. Et non, bon, encore une fois, non pas sur la base est-ce qu'il le mérite ou pas, la réponse c'est non. Comme nous, on ne mérite jamais que Dieu nous fasse grâce. Mais par grâce, ce que nous avons reçu, faisons-le entre nous. Le texte qu'on a vu aussi doit être un encouragement à persévérer. Parce que l'alliance que Dieu établit nous montre que Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous trébuchons. Et ça doit être un encouragement pour nous. Si, je suis certain que si on fait une rétrospective, et c'est pas vilain à l'occasion, hein, Dieu dit au peuple juif, regardez tout le chemin que je vous ai fait parcourir, regardez comment vous vous êtes comportés, c'est pas vilain de regarder en arrière. Dieu aurait toutes les raisons de nous abandonner. Et parfois, il y a un danger de se laisser décourager, de dire, je suis tellement... La grâce doit nous humilier sans nous décourager. On doit reconnaître qu'on n'a aucun mérite, qu'on ne vaut rien, mais ça ne doit pas nous décourager parce que cette même grâce nous donne de marcher. Alors, peu importe les erreurs passées et peut-être présentes, parce que Dieu est un Dieu de grâce, parce que Dieu est un Dieu d'alliance, nous avons toutes les raisons de dire, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de vie. Hein? Je n'ai pas la force en moi-même. Je n'ai pas nécessairement le courage, mais tu es un Dieu de grâce. Je persévère. On ne connaît pas le futur, je dirais, proche ou peut-être un peu plus loin, l'instabilité dans laquelle nous sommes. C'est possible que ça reprenne, qu'on dise, on l'a échappé belle. C'est possible que ça soit presque une fausse alarme comme la grippe aviaire puis le bug de l'an 2000, que l'on attend encore. Enfin, heureusement, il n'y a rien eu. Mais c'est possible que ça soit difficile aussi. Okay? Et nous avons, peu importe en quelles circonstances, nous avons toutes les raisons de persévérer. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il s'est engagé par voie d'alliance. Alors, même lorsque nous péchons, nous avons toujours ce même Dieu. Nous avons un avocat auprès du Père. Alors, un encouragement à nous humilier, réellement, un encouragement aussi.